Bonsoir, c'est Ondes Noires, une émission sur l'actualité du polar, présentée par Jacques
et Corinne. Bonsoir. Eh bien, aujourd'hui, nous avons très envie de vous parler de notre dernier coup de cœur, enfin, un de nos derniers coups de cœur, qui est un livre paru chez Métayer il y a quelques mois, qui s'appelle « Last Exit to Brest ». Et pour en parler, je crois que nous avons l'auteur au bout du fil. Bonjour Claude Batani.
Bonjour.
Ben voilà, la communication est très bonne. Donc, ce livre, un court roman,
oui,
qui se présente comme un 33 tours, en fait, puisque vous avez voulu deux faces.
Oui, j'ai voulu deux faces, en effet. La première face, pour un peu pour présenter les personnages. Bon, c'est les personnages d'un groupe de rock qui s'appelle Last Exit to Brest.
Qui est le titre du roman, je n'ai même pas encore eu le temps de le dire.
Oui.
Voilà.
Tout à fait. Et donc, il y a une présentation au départ du personnage dans la face A, enfin, la première partie appelée face A du... Un peu la façade d'un vinyle, quoi. Ça se présente comme les deux faces d'un disque. Et donc je présente des personnages brestois, un peu atypiques. Enfin atypiques et en même temps un peu archétypiques, car ce sont quand même des musiciens de rock. Donc il y a toujours les mêmes archétypes qui arrivent. Mais vu qu'ils sont brestois, ils ont une personnalité un peu spécifique à Brest. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce d'humour... un peu désespéré, peut-être lié à l'histoire de Brest, à sa position géographique. Enfin, quand je dis l'histoire de Brest, je pense à disons, la destruction de Brest pendant la guerre.
Après, la Deuxième Guerre mondiale, oui.
Ouais, qui après a été reconstruite et donc a séparé un peu les habitants de Brest de leur passé mythique.
Alors, c'est une question que je n'avais pas prévue, mais alors, apparemment, il y a un humour brestois particulier.
Bah, je dirais qu'il y a un humour brestois lié justement à cette configuration historique et géographique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'isolement de Brest qui est un peu séparé du reste de la France. Je plaisante, enfin, parce que Brest est une ville très française en soi.
Il y a un indépendantisme brestois, donc...
Donc il y a un indépendantisme breton. Et en fait, Brest est un peu une ville très française car elle a été construite... pour la marine, détruite un peu à cause de la marine également. Et donc, c'est une ville ouvrière et laïque. Et autour de Brest, c'est plutôt un univers plutôt rural et, je dirais, plutôt très catholique. Donc, il y a vraiment une spécificité brestoise qui l'isole un peu donc, du reste de la Bretagne. Et ce dont j'évoquais tout à l'heure, une espèce d'isolement historique en ce sens que la destruction de Brest pendant la guerre a beaucoup marqué l'âme des Brestois. Et de ce fait, ils ont un humour un petit peu désespéré, mais un peu fataliste, qui peut se retrouver à travers les personnages de ce roman.
Oui, que l'on retrouve sous-jacent presque à chaque ligne. Le personnage principal, il s'appelle Alban Le Gall, et c'est lui qui se raconte, en fait, c'est une sorte de confession que l'on ne comprend pas tellement au début et qui se démêle bien à la fin. Vous pourriez nous le présenter? C'est vraiment un personnage. Je dirais que c'est la première qualité de ce roman. C'est, et comme vous l'avez très bien vu, ce côté à la fois atypique et archétypique.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Alban Le Gall est c'est un videur de boîte de nuit. C'est un colosse homosexuel. Et qui donc qui devient le manager du groupe Last Exit to Brest. Après que quelques mois auparavant, son amant soit assassiné dans des conditions assez terribles. D'ailleurs, l'affaire n'est pas élucidée. Et donc, peut-être pour oublier, Alban Le Gall, en fait, s'investit dans le management de ce groupe de rock, dont d'ailleurs l'ancien manager est en prison pour une autre affaire criminelle. Et il se rend compte qu'il y a des meurtres qui se produisent dans l'entourage de ce groupe et dans son propre entourage à lui. Et donc, sa motivation première, ça va être de protéger le groupe de tout ce qui arrive. Donc, il protège, c'est vraiment son obsession absolue. Et il a un côté un peu maternant. C'est-à-dire qu'en fait, il coucoune un peu le groupe de rock. Et il essaye vraiment de les protéger des périls extérieurs qui semblent s'abattre autour de tous les personnages qui gravitent. Autour du Larsen. Le Larsen, c'est le QG du groupe, c'est le bar où le groupe se retrouve
produit
à Brest pour répéter et pour organiser des concerts. Donc c'est vraiment le regard d'Alban Le Gall qui, c'est la voix de ce narrateur, très, effectivement, comme vous l'avez souligné, qui a un humour un peu désespéré, et donc qui, dans un premier temps, présente un peu dans le récit les personnages. Donc, comme vous disiez au début, on comprend pas trop ce qui se passe, parce que bon, c'est vrai que la première partie est extrêmement déstructurée. Et peu à peu, chaque chapitre se clôt par un article du Télégramme de Brest, donc qui évoque tous ces. En général, tous ces.
Tous oui, ces, les meurtres, en fait. Disons que la construction narrative, on a la présentation des personnages et le côté particulièrement humain dans les mots, en fait, d'Alban Le Gall. Oui. Et chaque meurtre, chaque événement qui en fait donc un roman policier, enfin plutôt un roman noir, s'est annoncé par tes articles d'un journaliste, enfin, ou de plusieurs journalistes, pas super doué d'ailleurs dans l'annonce des nouvelles du Télégramme de Brest.
Oui, tout à fait, oui. Donc c'est vrai que la première partie du roman est très. C'est en fait un portrait des personnages à travers leurs failles. Donc en fait, on découvre les failles des musiciens en général, parce qu'ils ont tous une faille, mais le fait de s'exprimer par la suite à travers la musique et de faire un groupe, quoi, ça leur permet d'une certaine manière de. Ça leur sort d'exutoire. Et ça leur permet en fait de s'exprimer de façon réelle sur scène. Et finalement, c'est donc leur faille en fait en s'unissant entre guillemets à un côté relativement positif. Mais tout irait pour le bien dans le meilleur des mondes si justement il n'y avait pas tous ces meurtres qui commençaient à s'accumuler autour de ces pauvres ouais. musiciens.
Toujours l'événement qui fait que une vie ordinaire glisse dans le roman noir.
Glisse complètement dans le roman noir.
Alors justement, vous parliez dans la première partie, on retrouve un petit peu ça aussi, on retrouve ces personnages, cette galerie de portraits, cette galerie de rockers un petit peu désespérés avec ses failles. Moi, la première idée que j'ai eue, disons, au milieu de ce roman, c'est que vous aviez vraiment envie au départ de parler des êtres humains avant même l'envie de raconter une histoire. Est-ce que je me trompe ?
Non, vous avez tout à fait raison, parce qu'en fait, j'ai commencé par... Même avant de définir la personnalité d'Alban Le Gall, j'ai commencé à écrire des portraits. Et ce qui m'intéressait initialement, c'était vraiment d'écrire des portraits. Et finalement, le narrateur est venu un petit peu après. Et c'était vraiment la présentation de l'âme brestoise, autant que ce soit possible, à travers ces personnages. Donc, la ville de Brest, en fait, je la décris relativement peu dans le roman, mais mon souhait premier, c'était que justement, à travers ces personnages, on arrive quand même à sentir Brest. Brest qui est quand même une ville, bon, que moi j'adore évidemment, parce que j'y suis né, j'y ai un peu vécu, j'ai même vécu un peu en périphérie de Brest, donc du coup, pour moi, ça représentait un peu la ville.
Dans la campagne catholique, c'est ça, c'est ce que j'ai compris.
Bon, aujourd'hui, elle est un peu moins catholique qu'elle a pu l'être, mais. Donc cette ville lumière, en fait, pour moi, j'avais une espèce de fascination. Et pour moi, Brest et le rock étaient vraiment des images très, très, très liées.
C'était ma prochaine question, oui, parce que quand nous, alors bon, nous, on est exactement, je dirais, aux antipodes françaises de Brest, à Nice,
ouais.
Entre Nice et Grasse, Antibes. Mais donc c'est vrai qu'au départ, Brest et le rock, nous, ça ne nous paraît pas évident.
Oui, il y a une forme d'exotisme, effectivement, surtout pour vous, dans le Sud. Et c'est vrai que pour moi, Brest, c'est un peu la Liverpool française. Enfin, bon, j'exagère énormément. Mais c'est un peu la vision que j'en ai. Et c'est vrai que pour vous, c'est peut-être... Il y a une part d'exotisme dans le fait de décrire ce type d'univers complètement, complètement atypique. Quoi,
oui, en fait... Ces personnages. C'est vrai que vous dites que vous avez voulu faire de Brest, en gros, le sujet du roman. Et c'est vrai que les lieux où on vit, bien souvent, imprègnent les personnages. Et donc, les personnages sont imprégnés de ça. Et ce qui semble apparaître, c'est que leur choix de faire du rock n'est pas un choix délibéré. C'est leur faille et leur désespérance qui les a conduits un petit peu sur cette voie-là, en fait.
Oui,
non
ça, en fait, le rock étant une espèce d'exutoire.
D'exutoire, voilà.
D'exutoire. Et je dirais que mes personnages, ils sont à Brest, ils sont dans une ville maritime, mais ils n'ont pas tellement le pied marin. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne prennent pas la mer. Il y aurait une possibilité de prendre la mer. Eux, ils ne le font pas parce qu'ils restent vraiment très ancrés dans leur ville. Alors, je pense qu'au lieu de prendre la mer, ils s'expriment dans la musique. dans le rock. C'est leur façon à eux de s'échapper d'un univers qui peut paraître un peu étouffant du fait, des conditions géographiques et historiques que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est tous ces éléments qui... Et donc j'espère avoir réussi à faire passer à travers ces personnages l'âme brestoise. Car sinon quelqu'un qui n'est pas de Brest, qui n'a jamais vécu à Brest, qui arrive, s'il voit la ville pour la première fois, c'est vrai qu'il peut avoir un sentiment d'une ville relativement laide, car bien bétonnée après la guerre, construite pas vraiment face à la mer. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est au centre de Brest, comme je le dis à un moment dans le livre, on n'a pas le sentiment d'être en bord de mer. Bon, il faut regarder le ciel, parce que le ciel... alors Brest a aussi une réputation d'être une ville extrêmement pluvieuse, toujours grise. En fait, Brest, on l'appelle la ville blanche, parce qu'en fait, quand le ciel est bleu, quand il fait beau, et je vous assure que parfois il fait beau à Brest...
Et aujourd'hui, quel temps fait-il au hasard, aujourd'hui?
Aujourd'hui, moi, j'habite pas à Brest, en fait.
Ah bon, pardon.
C'est indiqué sur le quatrième de couverture du roman. J'habite à Rennes, donc... Mais là, il fait beau ici à Rennes, donc je pense qu'à Brest, il doit faire beau également.
C'est sûr.
Mais bon, je vais pas...
De toute façon, on n'est pas là pour parler du temps. Mais... Donc une ville blanche, mais avec des gens qui sont quand même très très noirs. Alors ces personnages, je pense à Yann Kerelec, Bertrand Podaclé, tous ces gens-là, est-ce qu'ils sortent complètement de votre imagination ou est-ce que c'est des gens que vous avez, disons, croisés à Brest ou ailleurs?
Je pense que c'est un mélange de personnes que j'ai dû croiser, mais en fait c'est pas conscient chez moi, c'est-à-dire que pour moi, c'est des personnages quand même relativement archétypiques, parce qu'en fait, le milieu du rock est un milieu, je pense, où très vite, par des phénomènes de mimétisme, des influences même à Brest, qui est une ville quand même relativement influencée par la musique anglo-saxonne. Donc il y a un mimétisme anglo-saxon qui fait que, ils prennent des postures, ils ont des attitudes qui sont relativement archétypiques, et malgré cette parure un peu archétypique, il y a quand même des... il y a quand même, comme je disais, l'âme brestoise qui transparaît, qui leur donne un caractère un peu atypique, propre à Brest.
Alors l'âme brestoise, justement, tout à l'heure, vous avez évoqué une autre ville qui est régulièrement le lieu de romans noirs anglais, c'est Liverpool,
oui.
Qui nous apparaît comme une ville aussi sinistrée. Donc est-ce que l'âme brestoise se nourrit aussi d'un sinistre social, avec beaucoup de chômage, avec beaucoup... Justement, ces rockers, ils ne savent pas trop quoi faire de leur vie, et parce qu'ils n'ont pas trouvé de place dans la société, en fait.
C'est vrai qu'il y en a qui végètent un peu à Brest. Bon, Brest connaît aussi le chômage. La grande entreprise de Brest, apparemment, c'était l'Arsenal.
Mm-hmm.
La DCN. Mais enfin, bon, c'est... Comme partout, elle a connu le chômage dans les années 80, 90, et aujourd'hui, c'est toujours un peu endémique. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu c'est un peu les cités ouvrières, portuaires, propres, comme à Liverpool, effectivement, où il y a ce côté, le chômage est extrêmement présent, et le rock est aussi une façon de trouver un exutoire, de trouver une échappée face au chômage persistant. Donc il y a tout ce côté ouvrier qui transparaît, ouvrier, puis cette ambiance un peu portuaire qui transparaît dans le roman, comme
tout à fait, oui, ça,
comme hélas dans beaucoup d'endroits.
Oui, alors donc vous aviez, on sent bien, on a évoqué le mot Brest je ne sais combien de fois depuis le début de notre conversation, on sent bien que vous avez vraiment envie de faire partager l'âme brestoise à vos lecteurs. Et pourquoi donc avoir choisi, ou peut-être ne l'avez-vous pas fait, c'est venu comme ça au fil de votre écriture, de décrire Brest et l'âme brestoise dans un roman noir avec des meurtres? On aurait pu avoir une histoire beaucoup plus tranquille et plus, entre guillemets, blanche.
Tout à fait. En fait, c'est parce que pour moi, Brest égale rock, pour des raisons, des souvenirs de jeunesse. Brest, c'est le rock. Et en fait, pour moi, le rock, c'est le roman noir. Ça, j'aurais pas pu faire j'aurais pas pu faire un roman sur le rock si c'était pas passé à Brest, parce que bon, c'était vraiment, c'était très très associé. Et deuxièmement, il me semble que bon, entre le rock et le roman noir, il y a plus que de, c'est un peu des genres donc d'un côté musical et de l'autre littéraire, des genres extrêmement populaires qui font sortir des pulsions, la partie obscure qu'on peut avoir en soi.
Des mauvais genres, en quelque sorte, en fait.
Comment ?
Des mauvais genres, en fait, en quelque sorte.
C'est un peu mauvais genre, ouais. Donc ces deux éléments étaient tellement associés que je ne me voyais pas écrire sur le rock dans une écriture de ce qu'on appelle une écriture un peu blanche, quoi, classique, mainstream. Il fallait vraiment que ce soit un polar, parce que c'est la même vision, c'est la même... pour moi, le rock, c'est un côté un peu noir, comme le roman noir, comme...
Oui.
Il y a une noirceur, quoi, il y a une pulsion, il y a un côté obscur qui transparaît à travers ces deux genres extrêmement populaires.
Et c'est vrai que souvent, on retrouve les failles, on va dire, des protagonistes, des héros de romans noirs qui correspondent souvent aux failles des gens qui chantent et qui composent du rock. Au niveau de l'écriture, comme on l'a dit, deux parties, la face A, avec une sorte de puzzle où il semble que vous vous amusiez à perdre un petit peu le lecteur. Est-ce que ça a été complètement conscient dans votre écriture, ou est-ce que c'est venu comme ça ? Est-ce que vous pensez au lecteur quand vous écrivez ?
Oui, je pense au lecteur assez fréquemment, souvent, presque. Ça dépend. En fait, là, le côté déconstruit était extrêmement volontaire. Je pense que le fait de perdre le lecteur de un petit peu, et puis de le pousser un peu à tout reconnecter. En fait, il y a une jouissance de la reconnexion, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on découvre un élément à tel endroit, puis un autre élément à tel autre endroit. On fait une connexion et on sent très vite qu'il y a une espèce de cohérence. Et en fait, il y a une jouissance quasiment esthétique dans cette façon de construire une histoire.
Mais c'est vrai qu'il y a, je me permets de vous interrompre pour vous dire qu'en tant que lecteur, il y a aussi une jouissance ludique à petit renouer tous ces fils.
Oui, c'est ça. C'est vrai que il y a aussi ce côté, effectivement, on reconnecte tout se relie, et peu à peu, on se rend compte que tout ce qui semblait assez hétérogène, en fait, tout fusionne au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, ouais. jusqu'à la fin, quoi.
En fait, on se rend compte qu'on s'est laissé mener par vous, en fait, par le bout du nez, quoi, parce qu'en fait, ça semblait partir un peu dans diverses directions, et puis nous, on suivait avec, on prenait un petit renseignement par-ci, par-là, et puis à la fin, on tombe sur la fin, quoi. Et on s'est bien laissé entraîner, effectivement.
Ouais, bah c'est le but, il faut être un peu... Disons que les auteurs, c'est qu'ils sont un peu manipulateurs, effectivement. Il faut savoir entraîner le lecteur, l'amener un peu où on veut l'amener, et puis il faut qu'un bouquin... qu'un roman à la fin se referme plus ou moins. C'est-à-dire qu'au départ, c'est quelque chose qui s'ouvre, et au bout d'un moment, il faut que tout se resserre, tout revient, et puis le livre peut se fermer et se conclure. D'ailleurs, je ne dévoilerai pas la fin.
Tout à fait, j'espère bien. Bien, malheureusement, nous arrivons aussi à la fin de notre première partie d'émission. Donc, une dernière question. Le titre, Last Exit to Brest, c'est, je pense, un hommage non déguisé à Hubert Selby Jr. C'est un auteur que vous appréciez particulièrement, ou ça sonnait bien ?
Bah, ça sonnait bien. C'est un auteur que, en fait, Last Exit to Brooklyn, je l'ai lu il y a une vingtaine d'années. Et effectivement, j'ai été séduit par l'écriture de ce livre à l'époque. Je pense surtout par des éléments formels, c'est-à-dire le fait qu'il faisait fusionner dans le livre les dialogues avec la partie narrative. Donc des fois, on se perdait un petit peu. Et donc il y a vraiment l'aspect formel qui m'avait intrigué à l'époque. Et puis sinon, il y avait une description d'un univers, mais qui est alors là beaucoup plus noir et plus désespéré que celui que je décris dans La Cité de tout Brest, chez Hubert.
Chez Hubert Selby.
C'est vraiment un désespoir le plus absolu qui soit, quoi. Donc c'est une forme de petit clin d'œil, effectivement.
Ben merci beaucoup, Claude Battani. Je rappellerai les coordonnées du livre. Et en tout cas, bravo pour ce premier livre, en espérant que vous nous régalerez bientôt d'un suivant.
D'accord.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.